Lors de l'éclatement de la crise sanitaire, nous sommes aperçus, souvent avec stupeur, que bien qu'ayant des firmes pharmaceutiques apparemment puissantes, nous étions dépendants d'approvisionnement de Chine ou d'Inde pour les principes actifs qui étaient indispensables pour produire ces médicaments. Alors, ça peut paraître anecdotique, hein, cette dépendance dont on s'est aperçu, et au fond, ça ne l'est pas, c'est plutôt assez illustratif, assez représentatif d'un phénomène qui est aujourd'hui assez structurant dans l'évolution de l'économie mondiale, qui est la fragmentation des processus productifs. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, la division internationale du travail, selon les principes de l'avantage absolu, l'avantage comparatif de Ricardo, est une source de gain dans l'efficacité de production. Et on a une intensification des échanges au fur et à mesure des époques, et en particulier dans l'époque récente. Maintenant, ce qui est caractéristique de cette fragmentation, c'est le fait que cette division internationale du travail a été poussée de plus en plus loin, un niveau de spécialisation très poussé, si bien qu'un même processus de production d'un bien va dépendre d'étapes, va être s'appuyer sur des étapes de production qui sont réalisées par une foule d'opérateurs, de fabricants différents et souvent localisés dans des processus de production. Au-delà même de cette spécialisation très fine dans les étapes de la production, l'autre aspect qui caractérise cette fragmentation des processus de production, c'est que cette division du travail entre un très grand nombre d'opérateurs est pilotée et coordonnée par un même donneur d'ordre, une même entreprise. On peut le voir de différentes façons. On le voit au travers de l'évolution de l'investissement direct à l'étranger. Le stock d'investissement direct à l'étranger au niveau mondial représentait environ 10% du PIB en 1990, et cette proportion a augmenté considérablement pour atteindre de l'ordre de 30% à la fin des années 2000 au moment de la crise financière, et de l'ordre de 40% aujourd'hui. Mais cette division du processus, cette fragmentation du processus productif, elle ne s'opère pas seulement avec des filiales, elle va aussi s'opérer avec des sous-traitants. Par exemple, quand Apple fait assembler ses téléphones en Chine, il ne le fait pas par l'intermédiaire d'une filiale. Il le fait par l'intermédiaire de sous-traitants à qui il va fixer un cahier des charges extrêmement détaillé et qu'il va surveiller de près, bien entendu. Et ensuite, c'est au sous-traitant de mettre en œuvre ce cahier des charges. Et le plus connu de ces sous-traitants, c'est Foxconn. Et on arrive à une production, à un objet qui va être constitué non seulement de beaucoup d'étapes différentes, mais finalement souvent qui va se diviser en différents modules qui eux-mêmes vont être le regroupement, la combinaison des tâches, des spécialisations, du travail de beaucoup d'acteurs différents. Une complexité parfois extravagante, si bien que on a des grands groupes qui ont des sous-traitants qui se comptent en milliers, hein, et parfois qui dépassent 10 000, donc extrêmement complexe. Le résultat, c'est que quand on regarde justement comment, quand on regarde d'où vient la valeur d'un iPhone qui a été assemblé en Chine, hein, il y a encore quelques années, en 2010, des chercheurs avaient calculé que seulement 2% de cette valeur était liée à du travail vraiment réalisé en Chine, et une grande partie de la valeur ajoutée, en fait, venait d'étapes précédentes, par exemple pour fabriquer l'optique en Allemagne, pour fabriquer l'écran tactile au Japon, ou la puce mémoire en Corée. Donc, on a un extrême éclatement de la production qui est assez révélateur et assez illustratif au fond de l'organisation de l'économie internationale et de la mondialisation aujourd'hui, qui peut prendre beaucoup de formes différentes, parfois extrêmement complexes, comme je l'ai dit, qui peut aussi changer pas mal de choses, à la fois sur les stratégies de développement que les pays pauvres peuvent suivre pour essayer de faire partie de ces processus industriels, hein. Ce qui veut dire notamment qu'il n'y a pas besoin d'arriver à contrôler l'ensemble du processus de production pour essayer d'en faire partie, pour essayer de faire partie des sous-traitants qui sont incorporés dans la chaîne de production, la chaîne de valeur d'une grande entreprise. Et puis ça veut dire aussi, notamment, entre autres choses, que dans le commerce international, il y a beaucoup d'allers-retours. Donc quand on regarde les montants du commerce international mesuré en niveau de production, eh bien, il y a beaucoup d'éléments qui seront comptés deux fois parce que, par exemple, il y a une puce électronique qui est exportée de la Corée vers la Chine, mais après, elle va être recomptée dans les statistiques de commerce international quand la Chine va exporter vers les États-Unis. Donc, ça complexifie la carte, disons, et la mesure du commerce international et ça change beaucoup sa réalité quotidienne. Alors, la crise actuelle donne des signaux, disons, modifie certaines des données qui sont fondamentales pour les choix des entreprises de fragmenter leur chaîne de production. En particulier parce qu'elle montre que les risques d'approvisionnement sont réels, en particulier lorsque les approvisionnements sont très distants, qu'il peut y avoir aussi des problèmes, des délais, des coûts supplémentaires liés au transport. Et puis également parce que, dans certains cas, des entreprises peuvent se retrouver, entre guillemets, prises en otage par des tensions géopolitiques entre les pays dans lesquels ils opèrent. Est-ce que cela va modifier les choix d'organisation des entreprises pour la localisation de leur production? C'est une question ouverte. D'un côté, les choix qui ont été faits l'ont été sur des considérations d'efficacité de la production. Et ces considérations restent. Ça veut dire que si les entreprises doivent modifier leur organisation, ça va engendrer des coûts nouveaux pour elles. Mais on peut penser que dans certains cas, elles accepteront certains de ces coûts pour limiter les risques auxquels elles s'exposent et puis pour prendre en compte certains des coûts supplémentaires qu'elles envisagent ou qu'elles subissent dans le cadre récent. Donc, on peut avoir des changements, mais à mon avis, limités et concentrés sur certains secteurs pour lesquels l'équation économique, l'exposition au risque rend pertinent de faire évoluer la disposition de la chaîne de valeur en fonction des événements récents.